Chapitre 3. Le coupé de M. Colombe stationnait depuis longtemps à la porte de Mademoiselle des Anges. Le cocher, après avoir fait deux ou trois fois le tour du square, s'était endormi sur son siège et rêvait d'une rosette de faveur blanche que la bonne de Madame Odèle attachait à sa boutonnière. Par moments, un coup de tête impatient de son cheval le réveillait en sursaut. Alors, il levait les yeux vers les fenêtres du second étage et se disait « Il faut croire que ça ne va pas sur des roulettes, là-haut. La demoiselle fait des façons. » Pauvre petite Monique, elle se défendait de son mieux. En rentrant, accablée de corps et d'esprit, elle avait suivi l'injonction du docteur Lamier et s'était jetée tout habillée sur son lit en priant Marthe d'aller avertir Madame Odèle de son retour. Celle-ci accourut aussitôt. « Qu'as-tu, mon enfant? Est-ce la migraine? D'où viens-tu ?»« Ce pauvre petit est mort sur mes genoux !» dit Monique, incapable de retenir plus longtemps ses larmes. Il fallut des explications. Madame Odèle, charitable et pratique, promit d'envoyer immédiatement Marthe chez le relieur pour aider la pauvre mère dans les soins à donner à l'autre bébé. « Tâche de te calmer, de dormir, ma chérie, » dit-elle en se penchant sur Monique et en l'embrassant avec une tendresse dont la jeune fille était sevrée depuis sa rébellion. C'est que Madame Odèle, tout en déplorant comme il convenait le triste événement qui avait bouleversé Monique, devinait fort bien l'effet produit sur M. Colombe par la vue de cette sincère émotion. Et elle en attendait de grandes choses. Quand, deux heures plus tard, elle vit un coupé monter lentement la rue des Acacias, elle s'applaudit de la justesse de ses prévisions. « Il vient prendre de ses nouvelles, tout ira bien. » Monique reconnut le coup de sonnette de M. Colombe à sa moelleuse discrétion. Elle se jeta à bas de son lit et entr'ouvrit la porte, juste à temps pour apercevoir le visiteur traversant le vestibule sous l'escorte de Marthe et se dirigeant vers le salon. « Marthe ! Marthe » appela-t-elle à voix basse quand la bonne revint à sa cuisine. « Comment, vous ne dormez pas, mademoiselle ? Vous m'avez fait faire un mensonge. Je lui ai assuré que vous dormiez. » « Ah, mon Dieu ! Je voudrais dormir pour toujours !» murmura Monique en se laissant tomber sur le divan. « Que vient-il faire ici à cette heure ? Ai-je bien vu ? N'était-il pas en habit noir ?» Marthe entra et ferma la porte sans bruit derrière elle. « Oui, en habit noir et gants perles. Avec ça, plus rose et blanc que jamais. Une fleur de péché. Ouh !» Ce monosyllabe chargé d'aversion soulagea un peu Marthe qui poursuivit. « Tandis que vous voilà toute défaite, le teint brouillé. Laissez-moi arranger un peu vos cheveux pour le cas où votre maman vous appellerait au salon. » « Causez, mademoiselle, ça vous soulagera. Dites tout ce que vous avez sur le cœur, comme si vous étiez seule. Moi, je ne compte pas. Je suis, comme les confidentes de M. Racine ou de M. Corneille, une sorte de boîte aux lettres qui reçoit tout et ne dit rien. La reine Bérénice, si vous y réfléchissez, était dans une position pire que la vôtre. Son Pyrrhus était autrement méchant que M. Colombe. » « Bon, voilà que vous riez, ça va donc un peu mieux ?» La sonnette du salon se fit entendre. « C'est pour moi !» dit Monique avec terreur. « Le moment est venu !» Marthe sortit et revint au bout d'une minute. « Dirai-je à votre maman que vous êtes trop souffrante ou que vous dormez ?»« Non, non, il faut en finir !» dit Monique d'un ton résolu. « Qu'ai-je à trembler ainsi ?» « Donnez-moi un verre d'eau, Marthe, et tirez un peu les plis de ma jupe. Elle est toute froissée. » Puis elle jeta un coup d'œil dans son miroir et s'y vit pâle comme un condamné faisant sa dernière toilette. « Que ne suis-je de ces gens résolus qui tiendraient tête à une armée ?» pensait-elle. « Mademoiselle des Anges, par exemple. On dit qu'elle a refusé 14 prétendants. » Quand Monique entra au salon, elle vit que sa mère avait les larmes dans les yeux. L'accomplissement prochain de son plus cher désir l'émouvait profondément. Monique s'assit à côté d'elle et ses regards s'arrêtèrent machinalement sur la bande en tapisserie d'un fauteuil, représentant des groupes de pensées se détachant sur un fond blanc. L'une de ces fleurs avait une face grimaçante qui semblait la narguer méchamment. C'était la première fois que Monique remarquait cette petite figure de farfadet avec son nez aplati et ses oreilles pointues qui semblait s'être cachée là, tout exprès pour railler sa prochaine défaite. « J'espère que votre indisposition est passée, mademoiselle, » dit M. Colombe. « Au contraire, j'ai un violent mal de tête. » Le silence qui suivit était peu encourageant. M. Colombe, debout, dans toute la solennité de son costume noir, ôta l'un de ses gants et reprit « Avez-vous jamais essayé de prendre des perles de caféine contre ces migraines ?»« Non, jamais. » Nouveau silence. Monique ne détournait pas les yeux du bouquet de pensées où ricanait le malin gnome. « Si le triste incident de ce matin avait ébranlé votre santé, » reprit M. Colombe en s'approchant par cette transition du grand sujet, « je regretterai que votre bonté d'âme vous ait amené chez, permettez-moi ce mot auquel je tiens, chez nos filleuls. »« Ma bonté d'âme n'y est pour rien, » répondit Monique avec froideur. « Le hasard m'a fait prendre la ruelle des Étours. » « Le hasard ?» interrompit sa mère. « Je t'ai enseigné, Monique, à voir autre chose que le hasard dans toutes les dispensations, dans tous les événements. » « Quoi qu'il en soit, mon intention n'était nullement d'entrer chez le relieur, » reprit Monique, dont le courage montait et qui regarda résolument M. Colombe. « Sa femme m'a appelé comme je passais. » Elle était dans une grande détresse, mais comme je suis absolument inexpérimentée, ma présence n'a servi à rien. À rien ? Elle m'a réchauffé le cœur, elle m'a laissé plonger dans un coin de votre âme que j'ignorais encore, s'écria M. Colombe en saisissant le fil conducteur et se promettant bien de ne plus le lâcher. Il s'approcha de Monique. « Par exemple, » fit-elle, « si vous vous imaginez connaître tous les coins de mon âme. » Cette idée lui parut si étrange qu'elle se mit à rire. « Non, pas tous, je le sais, mais c'est à quoi j'aspire. C'est votre confiance que je réclame, » poursuivit-il plus calmement. « Procédant selon toutes les coutumes séantes, je me suis adressé à votre mère d'abord. » Il s'inclina vers Madame Odel, qui s'inclina de même. « Avec son autorisation, c'est à vous maintenant que je viens offrir tout ce qu'un homme peut offrir à l'élu de son cœur. » Depuis quelques minutes, Monique se sentait un calme étonnant. « Ma fortune, » reprit M. Colombe, « une part de mon activité, mon nom enfin. »« Merci, j'en ai un qui me suffit, » dit Monique si froidement qu'on ne pouvait découvrir dans sa voix la moindre ironie. « Quant à votre activité, je suis incompétente et vous me ferez l'honneur de croire que les considérations de fortune ne sauraient influencer en rien ma décision. » M. Colombe pâlit légèrement, les roses délicates de ses joues s'effacèrent. Il ôta son lorgnon, le remit, puis toussa. « Je méritais cette leçon, » dit-il. « Je me suis mal exprimé. Ce que je vous offre, c'est moi-même. » « Maman, pour l'amour du ciel, finissons-en !» s'écria Monique. « Réponds à M. Colombe, je t'en supplie. Dis-lui que sa démarche me flatte, m'honore, tout ce que tu voudras. Mais chaque mot qu'il ajoute augmente son humiliation et la mienne. Je ne serai jamais Madame Colombe, je ne suis pas faite pour cela. » Aussitôt, elle sentit que cette dernière phrase était une échappatoire maladroite. Ce petit salon la voyait donc toujours défaillir. Quelques jours auparavant, elle s'y était laissée entraîner à une concession déplorable. En serait-il donc toujours de même? Elle rassembla ses forces. Mais déjà, M. Colombe avait interprété en sa faveur ces mots malencontreux. Si vous craignez que vos préoccupations habituelles, peu d'accord avec les miennes, ne vous rendent impropre à partager mon activité, rassurez-vous, dit-il. « J'exigerai fort peu pour commencer. Je vous guiderai doucement. Nous monterons ensemble sur les sommets. » Monique vit qu'il fallait frapper un grand coup. « Non, dit-elle, je suis bien décidée. Aucune puissance au monde ne me fera dire autre chose que non. » Mademoiselle Odel se leva et, s'approchant de la fenêtre, cacha sa figure dans ses deux mains. « Personne n'ouvrit la bouche pendant une longue minute. « Je devrais partir, » dit enfin M. Colombe d'une voix altérée, « et pourtant, je ne puis m'y résoudre. » Monique eut si grande pitié de lui que la victoire lui parut odieuse. Elle s'imagina qu'elle lui avait brisé le cœur. « Vous avez mal choisi votre moment, » fit Madame Odel en se tournant vers l'infortuné M. Colombe. « Je regrette d'avoir à le confesser, mais ma fille a de ces moments de révolte pendant lesquels elle ne sait dire en effet que non. Ajoutez-y une migraine, une tension nerveuse. Ce que je fais là est peut-être incompatible avec la dignité maternelle, mais je ne puis endurer de voir Monique repousser son bonheur par un caprice coupable. Je vous demande pour elle 8 jours de réflexion. » Vous ignorez encore, cher monsieur, quelles natures inconséquentes on trouve parmi les jeunes filles. Je suis trop heureux de garder un dernier espoir, répondit M. Colombe en s'inclinant. Et il se hâta de sortir, devinant que Monique allait protester. Pas un mot, dit durement sa mère quand le prétendant eut disparu. Ta conduite abrège mes jours. Retire-toi dans ta chambre et réfléchis. « Comme j'en ai pris pour toi l'engagement !» Monique obéit, absolument meurtrie et brisée par cette lutte. Elle voyait devant elle 8 jours de torture et ses 2 volontés, entre lesquelles elle se débattait, se rapprochant lentement comme 2 vivantes murailles pour l'écraser impitoyablement. Mademoiselle des Anges serait appelée comme renfort. La scène finale serait terrible. Monique se défendrait en héroïne, mais après... Marthe entra doucement dans la chambre et, voyant sa jeune maîtresse affaissée sur le divan, arrangea les coussins autour d'elle et la couvrit d'un châle. « Vous n'avez pas dit oui, j'espère, » dit-elle à demi-voix. « Mieux vaut endurer quelques mauvais quarts d'heure que de gémir jusqu'à la fin de ses jours à cause d'un mari mal assorti. » « Je me suis défendue, » murmura Monique, « mais il faut toujours recommencer. C'est affreux, cela. Je les navre tous. » « Ma mère me dit que j'abrège ses jours. Oh, c'est affreux, affreux !» Elle cacha son visage dans les coussins et éclata en sanglots. Madame Odel entr'ouvrit la porte. « Marthe, venez ici, » dit-elle sévèrement. « Mademoiselle a besoin de repos. » « Ah !» fit Monique en entendant leurs pas s'éloigner dans le corridor. « C'est par la solitude qu'on pense venir à bout de moi. » Ils ne me connaissent pas encore. J'en deviendrai folle peut-être, mais jamais je ne dirai oui. » Elle se serra les tempes à 2 mains pour comprimer les artères qui battaient comme des marteaux, puis elle se leva brusquement, jetant les coussins à terre et se dirigea vers la porte. On l'avait fermée à clé en dehors. Ce fut le coup de grâce. La violence de son émotion arrêta un moment les palpitations désordonnées de son cœur. Elle devint affreusement pâle et s'appuya à la muraille. Mais elle n'était pas de celles qui s'abandonnent à un évanouissement progressif. Par un énergique effort, elle réprima ce vertige, puis se dirigea vers son lavabo et, mouillant une large éponge, elle y plongea son visage. Ensuite, elle s'assit près de la fenêtre et se mit à réfléchir autant que le lui permettait son agitation. C'était donc les mesures de rigueur qu'on employait pour la convaincre. On voulait la séquestrer. Son imagination surexcitée lui faisait déjà entrevoir des mois d'emprisonnement. Qu'importe, ma patience lassera la leur. Je ne parlerai plus, c'est inutile. Le dernier mot est dit. Ces combats de paroles ne font que m'épuiser. Mon dernier retranchement sera le silence. Elle prit un livre et essaya de lire. « Que les journées seront longues quand je serai chacun à la campagne et que je resterai toute seule dans cette petite chambre où il fait si chaud en juin. Qui est-ce qui m'apportera mes repas? On m'interdira de communiquer avec Marthe sans doute. Mais quand mes amis s'informeront de moi, que leur répondra-t-on? Que je suis malade? Tiens, c'est une idée. Si je m'arrangeais à tomber malade, je demanderais à voir le docteur Lamier, je lui raconterais tout et il me défendrait. » Ici, ses yeux étant tombés sur un passage intéressant du livre qu'elle tenait, elle en lut une page, puis une seconde et une troisième, jusqu'à la fin du chapitre. Ce fut une heureuse diversion. L'effervescence de ses idées s'apaisa et la raison, peu à peu, reprit le dessus. « Je viens moi-même de bâtir un roman des plus absurdes, » se dit-elle. « Est-ce qu'on séquestre les jeunes filles à l'eau-neuve ? Je ne suis pas au milieu de bourreaux. Si j'ai assez de constance pour traverser une huitaine désagréable, la victoire me restera. » En cet instant, elle entendit un léger bruit à la porte, la clé tourna doucement dans la serrure. C'était Madame Odèle, un peu honteuse et effrayée de ce qu'elle avait fait, qui venait avec inquiétude jeter un coup d'œil sur sa fille. Elle s'attendait à la trouver absolument noyée dans les larmes. En la voyant, calme et pâle, un livre ouvert sur les genoux, elle comprit que, dans la résistance et les luttes, une autre Monique se développait et qu'il faudrait compter avec des énergies jusqu'alors latentes. « Viens prendre une tasse de thé !» dit-elle froidement. Quelle heure était-il donc ? Monique ne se souvenait pas d'avoir dîné et quand elle se leva pour suivre sa mère au salon, elle sentit, malgré le tragique de la situation, qu'elle avait faim. Le plateau était posé sur un petit guéridon arabe avec une assiette de beurrée. Monique servit le thé comme de coutume, puis elle s'assit sur sa chaise basse dans l'embrasure de la fenêtre et fit, à sa grande confusion, le meilleur repas de sa vie. Que ces beurrées étaient excellentes ! Jamais elle ne lui avait paru aussi savoureuse, ni le thé si parfumé. « Le chagrin, ça vous creuse décidément, » pensa-t-elle. « Maman, puis-je demander d'autres beurrées ?»« Sonne !» répondit laconiquement sa mère. Quand Marthe parut, ce fut vers Madame Odèle qu'elle se tourna, sans oser jeter un seul regard à Monique. Elle avait évidemment reçu une consigne à laquelle elle se conformait bien à regret. « Je désire, Monique, » dit sa mère de son ton mesuré quand la bonne eut disparu, « que tu t'abstiennes pour un temps de toute communication avec Marthe. Tu te permets à son égard des familiarités que je désapprouve et qu'elle te rend ce qui est encore plus fâcheux. Si d'ici à 8 jours tu lui adresses un seul mot, elle aura son congé. Sauf sur un point, je ne demande qu'à t'obéir, maman, » répondit Monique avec un calme qui l'étonna elle-même.